Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est l'ancien ministre Pierre Lellouch, député Les Républicains et délégué aux affaires internationales du parti, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Pierre Lellouch, bienvenue.
Bonsoir Madame Rigolet.
Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24.
Bonsoir.
Et Alain Auffray de Libération.
Bonsoir.
Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur les élections régionales à 5 semaines maintenant du premier tour de scrutin. Mais pour commencer, place à la toujours très riche actualité internationale avec la piste terroriste qui n'est désormais plus écartée par Moscou dans le crash de l'A321 dans le Sinaï, la piste donc de l'attentat, même si pour l'heure rien n'est confirmé. Pour autant, Pierre Lellouch, les Russes possiblement ciblés par Daesh, est-ce que c'est une vraie possibilité selon vous? Et si cela à nouveau est confirmé, qu'est-ce que cela changerait dans le cadre de ce dossier syrien?
Oui, c'est une vraie possibilité, je dirais même que c'est une probabilité, parce que il y a une résistance islamiste très forte à l'intérieur du Sinaï, de plusieurs milliers de combattants, que l'armée égyptienne n'arrive pas à réduire depuis longtemps. Ça a toujours été un bastion de la résistance des frères musulmans. Et donc il est tout à fait possible que ces groupes aient infiltré la sécurité dans le petit aéroport de Sharm el-Sheikh, qui est une station balnéaire, au départ construite par les Israéliens du temps de l'occupation, et qui est aujourd'hui, comme vous le savez, une ville touristique plutôt bas de gamme d'ailleurs, qui attire beaucoup de clients d'Europe de l'Est. Ça attire aussi les plongeurs sous-marins comme moi, il y a beaucoup de gens qui font de la plongée à Sharm.
Beaucoup de requins, beaucoup de coraux. Mais bon, là n'est pas la question.
Mais malheureusement, bon, là, c'est, à mon avis, c'est très très probable que ce soit un attentat terroriste, que les Russes soient ciblés, que les gens qui sont dans le Sinaï ont fait allégeance à Daesh. Et d'ailleurs, Daesh est devenu une espèce de maison-mère pour toutes sortes de groupes qui vont du Mali jusqu'à l'Afghanistan, qui retrouvent comme ça une sorte d'audience internationale forte.
Si c'est bien un attentat conduit par l'État islamique, qu'est-ce que ça change sur ce dossier syrien? Déjà, qu'est-ce que ça change par rapport à nous-mêmes? Nous bombardons les positions de Daesh en Syrie et on voit aujourd'hui bien Air France qui détourne ses vols du Sinaï. Ça veut dire
oui. Alors attendez, on va distinguer dans votre question le début de la question. Qu'est-ce que ça change pour les Russes? J'étais donc en Russie la semaine dernière avec
l'ex-président Sarkozy. On va y revenir.
Voilà. Ce que nous ont dit les Russes, c'est que eux, ils pensaient qu'il y avait leur chiffre, c'est 18 000 occidentaux se battent dans les rangs de Daesh en Irak et en Syrie. Et 4000 Russes, surtout les Tchétchènes. Une des raisons pour lesquelles Poutine fait la guerre, soyons très clairs, il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est pour montrer aux Occidentaux que la Russie existe, bien sûr. L'autre, c'est qu'ils ont toujours été alliés du régime bassiste. La troisième, c'est la base navale de Tartous. Et la quatrième, c'est qu'ils veulent casser la tête des terroristes pour bien montrer à leurs propres musulmans, et ils ont 20 millions de musulmans, qu'il est hors de question de laisser se développer ce genre de cancer à l'intérieur de la Russie. Donc voilà pourquoi ils font la guerre, et ils la font, comme vous le savez, très fortement.
On a pourtant cru comprendre qu'ils visaient pas prioritairement les terroristes.
Ils sont plutôt sur Al-Nusra,
honnêtement, moi je suis pas dans les salles avec les gens qui sont habilités à savoir quels sont les plans de frappe des uns et des autres. On a cru comprendre que naturellement ils essayent de protéger le régime et de taper sur à peu près tout le monde autour. Il semble qu'ils frappent en priorité tous ceux qui se battent contre le régime, mais il y a aussi des frappes contre Daesh, semble-t-il. Cela dit, le détail, honnêtement, je ne l'ai pas.
Mais qu'est-ce que ça changerait alors si c'était confirmé que c'était un attentat? Est-ce qu'il faudrait renforcer les frappes
contre
l'État islamique, une coalition plus large? Qu'est-ce qu'il faut?
Connaissant un peu Poutine et le fonctionnement de la régime, ça va les durcir encore un peu plus. Après, s'agissant de la France, vous avez dit, bon, les avions... aujourd'hui, il n'y a pas de missiles anti-aériens susceptibles d'aller atteindre des avions à 10 000 mètres d'altitude du côté des gens de Daesh. Ils sont en train de toucher des missiles anti-chars modernes, américains, qui arrivent dans d'autres milices, mais comme tout le monde se mélange à l'intérieur de la Syrie, un jour ou l'autre, ça va trouver son chemin, naturellement, chez les plus radicaux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de missiles anti-aériens, sauf que les compagnies aériennes, par mesure de précaution, évitent de survoler cette zone. Qu'est-ce que ça doit faire pour notre diplomatie? Mais De notre point de vue à nous, aux Républicains, on dit la même chose depuis 2 ans et demi. Je l'ai dit avec François Fillon quand on s'est rendu en Russie il y a 2 ans et demi. En parler avec Poutine, le sujet c'était la Syrie. Et on a dit, à l'époque on a été crucifié d'ailleurs dans les médias français, cher Vladimir, comment, devenus les, quasiment des agents russes. On disait des choses très simples, on disait qu'on ne pouvait pas régler la Syrie sans la Russie et sans l'Iran. Et donc il fallait leur parler. C'est vrai aussi pour l'Ukraine. Mais ça aussi, c'était impossible de dire à l'époque. On disait des choses qui sont aujourd'hui couramment acquises, puisque il s'est tenu, il y a 15 jours, une réunion où, tenez-vous bien, où il y avait des Américains, des Russes, des Iraniens, des Turcs, sans la France. Et il a fallu que Laurent Fabius rame toute la semaine dernière pour qu'il y ait une deuxième round à 12 pays où la France est incluse. Donc nous disons, de façon très simple et sans agressivité et sans esprit polémique, que la bonne politique pour la France aujourd'hui consiste non pas à mettre des préalables, et j'ai vu que François Hollande venait de recommencer un préalable depuis la Chine, en disant, oui, il y a des élections en Syrie, mais sans Bachar el-Assad. De quel droit, je veux dire, comment est-ce que nous, on choisit les candidats dans les élections dans les autres pays? Bien sûr que ça peut être un criminel, c'est un criminel, mais pardonnez-moi, si on doit, dans ce type de région... choisir les candidats aux élections, on n'a pas fini.
Ça renforce notre conviction que l'actuelle diplomatie française, que la diplomatie française actuelle, pardon, fait fausse route.
Oui, ce que je redis des choses simples. Il faut que la France, au lieu de s'aligner derrière les États-Unis, rassemble les deux coalitions qui aujourd'hui se font face sur le terrain. Il y a l'américaine et il y a la russe. Il faut les réunir et il faut rassembler toutes les parties prenantes pour essayer de trouver un processus politique. Et à l'intérieur de ce processus politique, ne pas mettre de préalable. Je crois que personne n'est marié avec el-Assad à la sortie de ce processus. Mais on ne peut pas commencer un processus en niant à l'État syrien d'être autour de la table. Alors cet État, il a encore un président. On peut très bien ne pas l'aimer.
Moi, j'ai pas d'affect pour M. el-Assad. C'est garder le régime en place.
Pardon ?
L'idée, c'est de garder le parti basse pour une future transition.
Mais le parti basse, c'est... Je vous rappelle, madame Rigolet, la Syrie, c'est nous qui l'avons inventée en 1920. C'est nous qui avons donné les clés à la minorité alaouite. Parce que ça paraissait la plus moderne. Qui a inventé le parti basse? C'est Michel Aflaq, formé des Libanais, formé à la Sorbonne. C'est ça l'origine du parti basse, laïque. C'était des chrétiens libanais, devenus syriens à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est ça l'histoire. Donc on ne va pas nous dicter qui va être candidat dans les élections. Il y a des réalités. La Syrie est un pays extraordinairement complexe. C'est une mosaïque de minorités. Donc n'excluons pas. Si on veut que le processus politique fonctionne, évitons de mettre des préalables.
Alors, c'est tout ce que nous disons. Fèvre. Vous dites que la position française, en quelque sorte, n'est pas la bonne. Elle est soutenue bec et ongles par Laurent Fabius, qui dit dans le fond qui frappe Daesh conforte
Bachar. C'est pour ça que pendant 1 an et demi, Laurent Fabius a refusé que nous allions frapper côté syrien, parce que on a frappé côté irakien avec les Américains, puis on s'interdisait de frapper en Syrie pour ne pas aider justement Bachar el-Assad. C'était l'argument du ni Daesh ni Assad. C'était ça la ligne de Laurent Fabius et de...
Enfin, rappelez-vous que François Hollande, c'était quand même un peu... Après la fameuse ligne rouge, Obama lui a un peu tiré le tapis sous les pieds.
Complètement.
Bon, ma question n'était pas celle-ci. C'était, vous êtes allé à Moscou donc avec Nicolas Sarkozy. Avez-vous le sentiment que pour Poutine, il est crucial de défendre Bachar el-Assad? Est-ce qu'il peut flancher? Est-ce qu'à un moment... Eh bien, il peut devenir la solution pour aider à la solution politique.
Que Poutine soit une partie de la solution. J'en suis convaincu. Je pense pas que la.
Elle l'est militairement, mais politiquement, est-ce qu'il peut jouer un rôle?
Mais évidemment, puisqu'ils sont les alliés, les Syriens. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe depuis 4 ans dans cette affaire? Depuis 4 ans, nous, les Occidentaux, on a dit depuis le début, depuis 2012, Bachar va tomber dans 15 jours. On a attendu qu'il tombe. Il n'est pas tombé. Pourquoi il n'est pas tombé? Parce qu'il y avait un allié depuis 40 ans qui s'appelle la Russie, et l'autre, l'Iran, qui envoyait ses forces. Le Hezbollah, des armes, des conseillers militaires. Donc il n'est pas tombé. Dans le vide de la position occidentale, puisque personne n'a envie d'y aller. Les Américains ne veulent pas faire la guerre en Syrie. Les Français qui ont créé la Syrie n'ont plus les moyens aujourd'hui, pas plus que les Anglais. Donc, qui est-ce qui s'est engouffré dans ce vide? Les puissances régionales. Les Turcs, les Saoudiens, les Iraniens. Chacun avec leur agenda. Les Turcs pour tuer des Kurdes, parce que vu d'Ankara, le danger, c'est pas du tout Daesh, c'est un État kurde, donc ils bombardent les Kurdes. Les Saoudiens et les Qataris, eux, ils aident Al-Qaïda et toutes les milices ultra-salafistes. Et puis les Iraniens, eux, ils aident les chiites. Et donc vous avez une guerre par procuration.
Oui, mais c'est ça qui est grave. C'est loin de ma question et de la réponse sur...
Alors, non, mais j'allais reposer la question. Oui.
Alors, je vous en prie,
je la repose. On a bien compris que vous nous expliquiez que rien n'était possible sans les Russes, ok. Mais la question était de savoir si, revenant de Moscou, vous avez le sentiment que l'objectif politique des Russes, c'est de remettre en selle Bachar.
Je crois pas. Je crois qu'ils veulent éviter qu'à la place de l'Assad s'installe un régime terroriste. C'est différent. Autrement dit, s'il y a une solution sans la personne du président Assad, mais qui soit une coalition entre le parti Baas plus des forces d'opposition, entre guillemets, plus ou moins démocratiques, puisqu'il y aura des élections, c'est ça qu'ils cherchent. Voilà. Ce qu'ils veulent éviter, c'est qu'une fois qu'on renverse le dictateur, on mette à sa place d'autres dictateurs encore plus radicaux qui seraient des salafistes.
Là, vous n'êtes pas si loin de ce que dit le gouvernement français aujourd'hui, finalement.
Sauf que le gouvernement français continue à dire que pour commencer le processus, il faut que Bachar s'en aille. Si vous commencez le processus sans Bachar, il n'y aura pas de processus, tout simplement.
La restriction est trop grande, à votre sens.
Pardon ?
La restriction est trop grande.
Pas à nous de dire qui doit participer à la négociation. Pas plus que c'est à nous de dire qui doit être président de la Syrie demain. L'idée, c'est d'arriver à des élections. On ne va pas désigner le président. Je ne crois pas que ce soit une position qui soit tenable. Là, ce que j'ai entendu tout à l'heure de François Hollande venant de Chine m'a un peu surpris en disant oui à des élections, mais sans Bachar el-Assad. Alors bon, si c'est lui qui dresse la liste des candidats, ça ne va pas le faire, comme on dit communément.
Roselyne Fèvre.
Alors ce qui se passe en Syrie, bien sûr, la résultante, le boomerang, c'est cet afflux dramatique de migrants en Europe. Et je vous ai entendu dire que, dans le fond, l'Europe n'était plus une terre d'asile.
Alors il y a deux boomerangs de cette guerre qui dure depuis 4 ans et qui est un véritable volcan. C'est terrible ce qui se passe. Parce que ce volcan est en train d'entraîner d'autres volcans, je pense au Yémen. Hein, c'est lié, c'est la même guerre. Par procuration entre les chiites et les sunnites, entre les saoudiens et les iraniens. Il y a deux retombées. L'une, c'est le terrorisme, dont on ne voit pas, on n'a pas vu la fin. On n'a pas vu encore, et j'espère qu'on ne le verra pas, j'ai des doutes là-dessus, on verra des choses très graves, parce que les gens reviennent de Syrie en ayant appris des techniques qui n'ont pas encore été utilisées en Europe et qui ont été utilisées là-bas.
Ah, ça serait une menace terroriste pour la France sur son propre
sol. Sur l'ensemble des Européens, inévitablement, quand des milliers de gens vont faire la guerre dans des conditions aussi barbares, quand on voit des jeunes Français mourir avec des ceintures d'explosifs là-bas, un jour ou l'autre, on aura des attentats extrêmement graves en Europe. Et sans doute en France. Ça, c'est une réalité. Et je crois qu'on ferait bien de, sans paniquer les gens, de nous préparer à ça de façon extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. Et ça fait aussi partie des préoccupations que nous avons quand nous parlons de sécurité, de modifier l'organisation de la sécurité, de modifier l'organisation de l'armée. Là. La deuxième retombée, et qui, elle, n'était pas prévue, et qui a été puissamment accélérée par des déclarations de Mme Merkel début septembre, c'est ce flot de migrants qui arrive du Proche-Orient et auquel se mêlent d'autres migrants d'ailleurs, puisque il y a ceux qui viennent d'Afrique, y compris d'Afrique francophone de l'Ouest, il y a ceux qui viennent des Balkans. Le résultat, c'est que cette année, on va entre 700, les chiffres officiels sont de l'ordre de 700 000 à 1 million de gens qui se dirigent vers l'Europe et notamment vers l'Allemagne. Voilà. Et ça pose un défi littéralement sans précédent. C'est la première fois qu'on voit des pays se vider pendant une guerre en direction d'autres pays. On a vu des déplacés. Et aujourd'hui, il y a 60 millions de déplacés. C'est l'estimation de l'ONU.
Comment on fait ?
Je crois qu'il faut changer le signal de Mme Merkel. Il faut commencer par peut-être, mais enfin, si on continue à dire que l'Europe est ouverte, c'est pas 1 million qu'on va avoir, c'est plusieurs millions. Et ce qu'on a vu cette année va se reproduire. Or, on va très vite s'apercevoir que c'est très compliqué à gérer 1 million de personnes qui arrivent en ne parlant pas la langue, avec une autre culture, dans des situations économiques. En Allemagne, ça va encore, mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. On est en train de jouer, et je pèse mes mots, avec des conséquences politique et sociale qui risque d'être hors contrôle. Voilà. Quand vous voyez des pays les uns après les autres fermer leurs frontières, Madame Merkel évoquait, j'ai cru voir ça aujourd'hui, des risques de guerre dans les Balkans, entre pays des Balkans, à cause des migrants. Donc on est dans une situation qui est en train de dégénérer. Et je dis qu'il faut changer le signal. Deuxièmement, la chose que je dis, c'est que j'aimerais voir les frontières extérieures de l'Union fermées. Ça fait trois sommets. Pas du tout, Madame Fèvre. Pas du tout. Non. J'ai pas vu un garde-frontière de plus entre la Grèce et la Turquie. Ni à terre, ni en mer.
Ouais.
Donc les frontières restent ouvertes. Et les gens, je vous dis, arrivent à hauteur de 10 000 personnes par jour.
Votre famille politique a souvent décrit Angela Merkel comme un modèle, enfin en tout cas fait des éloges. J'imagine que vous vous êtes posé la question, comment vous expliquez la position qu'elle a adoptée au début de la crise des migrants, dont vous dites qu'elle a eu des effets catastrophiques, mais pourquoi elle a fait ça selon vous?
Bon, je pense qu'il y a une partie de son histoire personnelle. J'en ai beaucoup parlé avec son entourage, avec des amis allemands. J'ai eu l'occasion de me rendre à Berlin et voir beaucoup de collègues allemands. Ils se posent eux-mêmes la question. Je pense qu'elle a été très secouée par la photo de ce petit garçon kurde, noyé sur une plage à Bodrum, le 3 septembre. C'est le 4 qu'elle fait sa déclaration, où elle dit « c'est intolérable, l'Europe doit accueillir, l'Allemagne va accueillir, elle peut le faire ». Bon, comme les migrants, ils ont des téléphones portables, si on a été dans des camps de réfugiés au Liban, en Turquie et ailleurs, si vous êtes père de famille et que vous vivez sous la tente depuis 3 ans et que vous entendez que l'Allemagne est ouverte, vous allez en Allemagne. Et elle a déclenché un processus. Personnellement, j'ai tout de suite vu ça, parce que je connaissais la réalité de ces souffrances humaines. À partir du moment où vous dites que l'Allemagne est ouverte et que l'Allemagne est riche, les gens ils vont vers l'Allemagne. Comme en plus en Turquie, vous aviez presque 2,5 millions de personnes, ça coûte 6 ou 7 milliards, et que Erdogan en a un peu assez, la population turque aussi, ouvrir la France, laisser passer les gens, c'est ce qu'ils font.
En ce sens, le renforcement politique de Erdogan au terme des élections, c'est un bon signal pour nous. Ça va être encore plus compliqué de gérer.
Je vais revenir, s'il vous plaît, sur Erdogan dans une seconde. Je voudrais répondre sur Merkel. Alors. Je pense que sur Merkel, il y a son émotion personnelle, il y a le fait qu'elle-même a été une réfugiée, il y a le fait que ce pays a connu beaucoup de réfugiés politiques. Donc il y a son histoire qui fait que les Allemands se sont dit on va pouvoir le faire. Il y a eu un élan de générosité au départ. Je crois qu'ils n'ont pas vu l'ampleur phénoménale du sujet. Nous en France, c'est ce que j'ai essayé de leur dire. On sait ce que c'est que les problèmes d'immigration et d'intégration, c'est très compliqué. En Allemagne, ils n'ont eu qu'à gérer que la communauté turque, qui est très particulière, qui est assez repliée sur elle-même, mais qui n'est pas sujette à l'inflammation salafiste. Ils ont un problème kurde, mais c'est tout. La communauté turque en Allemagne travaille et est finalement relativement intégrée.
Ce que vous dites, c'est que c'est une vraie erreur politique d'Angela Merkel.
Je crois qu'elle
n'a
pas vu.
Oui.
Une erreur, d'ailleurs, que mes collègues au Parti Républicain se sont gardés de dénoncer à l'époque. J'étais le seul à dire.
Nicolas Sarkozy en tête, d'ailleurs.
Non, mais personne ne l'a fait. Parce que d'abord, on aime bien Angela Merkel et on n'a pas voulu en rajouter dans ses difficultés. Parce qu'elle en a, elle va en avoir d'autres, croyez-moi. Quant à Erdogan... Bon, Erdogan, son seul et unique problème, c'est son pouvoir personnel, et c'est accessoirement les Kurdes. Donc il a utilisé les tensions à l'intérieur de la Turquie pour siphonner les voix de l'extrême droite, et le voilà consolidé. Pas complètement, mais il est très consolidé.
Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous face à ces
migratoires ? On va avoir un partenaire extrêmement difficile. Je vous signale que quand Mme Merkel a été...
Lui apporter de l'argent.
Lui rendre hommage. J'étais presque en train de dire, lui baiser la babouche un certain dimanche il y a 15 jours, à 15 jours des élections turques. Lui proposer de l'argent pour fermer la frontière, il s'en est gaussé publiquement en disant nous ne sommes pas un camp de concentration.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos pour parler des élections régionales.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Les Républicains Pierre Lellouche, délégué aux affaires internationales du parti, pour vous interroger, Alain Onfray de Libération et Roselyne Fèvre de France 24. On le disait en titre, nous sommes à 5 semaines des élections régionales, premier tour le 6 décembre prochain, et l'inquiétude monte à gauche avec un PS menacé d'une véritable déroute électorale, inquiétude également à droite face à la progression du Front National, notamment dans les régions Nord et en PACA, chacun se renvoie la balle. Est-ce que vous pensez, comme Bruno Le Maire, Pierre Lellouche, que François Hollande fait délibérément monter le Front National ?
Non, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait un cabinet noir à l'Élysée pour faire monter le Front National. Ce que je crois, c'est mécanique dans notre histoire politique, tous les tableaux le montrent, c'est que malheureusement, quand la gauche est au pouvoir, ça fait monter le Front National.
Ça, c'est une vérité vraie, mais toujours annoncée par la droite.
Et je peux vous dire que depuis l'alternance de 2012, le Front National a pris 10 points de plus. Alors, est-ce que c'est le délibéré ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est le résultat de la politique ou de la perception de la politique par beaucoup de Français ? Certainement. Quand vous voyez ce que Nicolas Sarkozy a appelé la chienlit, c'est-à-dire une espèce de délitement de l'autorité publique avec telle communauté qui brûle une gare, puis qui bloque une autoroute, des émeutes incontrôlées à Clermont-Ferrand, qui tourne à zone de guerre, alors que la police ne bouge pas, une politique qui est largement perçue, plus que perçue comme laxiste de la part de la garde des Sceaux, que je ne vise pas personnellement. Je dis c'est une politique comme celle-là, ça fait monter le Front National. Si en plus il n'y a pas de débat sur l'immigration, on en a parlé tout à l'heure, mais chaque fois qu'on en parle, on est tout de suite mis dans la case raciste, islamophobe, etc. Les gens, ils sentent cette frustration, et ça se traduit par un départ en masse de beaucoup d'électeurs de gauche et de droite vers ce qu'ils n'ont pas encore essayé, c'est-à-dire le Front National. C'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est comme ça que les électeurs nous parlent, en tout cas, je peux vous dire.
Est-ce que vous tenez pour possible une victoire du Front National dans une, voire deux, voire trois régions, pourquoi pas ?
Oui.
Et si oui, est-ce que c'est pour vous une catastrophe, qu'il faudrait tout faire pour l'éviter, ou est-ce que, après tout, c'est la démocratie et il faut faire avec ?
Je tiens une telle victoire pour possible parce qu'il y a un rejet de l'ensemble de la classe politique dite de gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont à la limite du désespoir et qui n'ont plus confiance en nous. Qu'on soit socialiste ou républicain. C'est la vérité. Ça sert à rien de dire que c'est une catastrophe. Si c'est une catastrophe, alors il faut interdire le Front National. Et considérer que c'est un parti qui ne mérite pas d'être dans le jeu démocratique. Dans ce cas-là, ce serait une catastrophe.
D'accord. Moi,
Suivante, je le sais, ça va être quid alors de ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe.
Oui, c'est à peu près ça. Est-ce que vous diriez, comme Cambadélis, qu'il faut tout faire pour empêcher la victoire du Front ?
C'est quoi tout faire ? Interdire le parti Front National ? Empêcher les gens d'aller voter pour eux ? La meilleure façon d'empêcher qu'ils votent pour eux, c'est d'avoir un programme crédible pour les régions en question et de se battre. Nous, on se bat pour essayer de gagner, en essayant de garder le Front National le plus bas possible, parce que c'est comme ça qu'on peut espérer gagner des régions en France.
Vous écartez totalement le Front Républicain.
Vous
écartez totalement toute idée de Front Républicain au cas où l'une de vos listes arrive en troisième position.
Madame Rigolet, si mon analyse est juste, à savoir que à chaque fois qu'il y a la gauche au pouvoir, le Front National augmente, et malheureusement c'est exact depuis les années 80, ce que je vous dis, ça dure depuis un moment, et c'est confirmé par les faits. Pourquoi me demander à moi de m'allier avec la gauche pour encore renforcer les chances du Front National, parce que le Front National, à ce moment-là, il va dire, voyez, nous sommes la seule alternative à cette union des partis corrompus qui ont mal gouverné la France depuis 40 ans.
Donc, le Front Républicain, c'est le carburant du Front National.
Absolument. Si on veut faire monter le Front National, la meilleure façon d'y arriver, c'est de faire ce genre d'alliance, à mon avis, contre nature, parce qu'on est en démocratie. On a des idées et des politiques différentes entre la droite et la gauche. Si on accrédite l'idée que c'est la même chose, et qu'on est ennemis toute la journée, mais quand il s'agit de taper sur le Front National, tout le monde est uni, alors vous allez victimiser et valider tout ce qu'ils racontent, à savoir qu'ils sont la seule alternative possible en France. Ce serait fou. Et croyez-moi, dans les pays européens où ça a été tenté, je pense à l'Autriche par exemple, ça pas été terrible, parce que ça installe l'extrême droite comme alternance à la classe politique. Et donc, il faut faire très attention à ça.
Roselyne Fèvre.
Mais ne pensez-vous pas que ce qui fait aussi monter le Front National, c'est cette délégitimation permanente et que chacun se renvoie. Quand la droite est au pouvoir, eh bien, la gauche critique. Quand la gauche est au pouvoir, la droite critique. Et ce procès que vous faites en laxisme à la gauche, elle est un peu éculée, c'est une vieille critique. Est-ce qu'elle est réellement méritée? Et n'est-ce pas ça qui fait monter le Front National? C'est que vous délégitimez systématiquement ce que fait un parti républicain au pouvoir.
Vous voulez dire que le jeu politique en France ne vole pas bien haut, et je pense que vous avez en partie raison. J'aimerais.
Pas qu'il vole bien haut, mais c'est qu'il en résulte cela.
Non, vous dites qu'il vire à la caricature, oui. Au sens où on est dans l'attaque personnelle ou la caricature de la
position.
Vous
avez vu les questions gouvernement comme nous aujourd'hui, avec la première question posée par l'opposition dont vous êtes membre sur Hollande,
sur
le laxisme.
Non, mais Lucette, franchement,
vous avez fait plaisir. C'était pas une question.
Ça fait partie du jeu démocratique, mais rigolez. Mais franchement, Lucette.
C'est pas aux questions gouvernement.
Lucette. Pour un président qui passe son temps à faire de la com, là, ça fait un mois qu'il fait que de la com. Il est parti en campagne, lui. Il fait campagne, pas pour la régionale, pour lui. Là, il a dérapé. Clairement, son entourage, comme souvent dans ces cas-là, lui a monté un pataquès qui est comique.
Méritait une question au QAG ou question gouvernement ?
Ce qui méritait une question au QAG, c'est que justement, elle voulait parler des retraités et de l'immigration, qu'elle n'a pas eu droit à un moment où il y a eu cet autre pataquès sur la taxe d'habitation, la correction de la demi-part pour les veuves, qui a quand même traumatisé beaucoup de vieilles personnes dans notre pays. C'est une réalité. Bon, après, il y a eu des réponses convenues, des échanges convenus. C'est pas aux
questions. Mais c'était pas ça. Moi, je voulais vraiment vous poser cette question sur ce qui fait aussi monter le Front National. C'est cette critique permanente que chacun se renvoie quand un parti,
vous savez, la critique, moi, je serais beaucoup plus radical que vous, Madame Fèvre, parce que j'ai consacré 20 ans de ma vie à essayer de servir mon pays. Donc, quand je regarde le résultat, je suis pas très fier de moi. Quelque part, on a raté. J'aurais
droite,
dû faire autre chose.
Tout le monde?
Honnêtement, je vous parle
très
honnêtement.
Vous voulez parler de quoi? De vous, de la droite?
Mais je parle de moi, je parle de la droite, je parle de la gauche. Quand on regarde notre pays avec 2000 milliards de dettes, on voit 11% de chômeurs, alors qu'on a tous les atouts pour réussir en Europe, qu'on est infoutu de faire des réformes que tous les autres pays ont fait, parce qu'on est complètement rigifié, ossifié dans nos corporatismes, qu'on n'arrive pas. Alors qu'en privé, quand je parle à mes collègues de gauche, on est parfaitement capable de se dire, attendez, là c'est complètement débile, on devrait pouvoir faire ça, on n'arrive pas à le faire. C'est donc que la machine politique française, elle tourne à vide. Et les gens qui vont au Front National, ils savent qu'on est... On est gravement frappé d'incompétence et d'impuissance. Donc ils attendent des gens qui vont les sortir de là.
Et je c'est ne une voudrais illusion, pas. On est d'accord.
Bien sûr, surtout à regarder leur programme et leur programme notamment sur le plan économique ou sur l'Europe. N'empêche que un certain nombre de questions sont posées et qu'on a été incapable d'y répondre de façon convaincante. Je fais mon mea culpa. Et si on n'est pas capable de faire ce mea culpa, c'est pas la peine de dire que la solution, c'est de s'unir pour bloquer le Front National. Parce que si c'est ça le discours qu'on va tenir, ça suffira pas. Je crois qu'on a intérêt à travailler le fond, à essayer de voir comment on avance au fond, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour réformer le Code du Travail. On ne peut pas continuer avoir un truc aussi ossifié qui empêche les gens de travailler quand même.
Mais
pourquoi
on disait
est-ce qu'on
déjà,
exporte
on disait
300
déjà
000
ça,
Français par an aujourd'hui.
Précédent quinquennat.
Mais oui, mais si on avait tout réussi, mais... Madame Rigolet, on n'aurait pas été battu. On a été battu parce qu'on quelque part on n'était pas au résultat. Quand j'ai demandé en 2012 après la défaite, quand j'ai demandé un droit d'inventaire, on m'a mis dans le placard en disant surtout pas. J'ai parlé de devoir d'inventaire. J'ai dit, asseyons-nous autour d'une table, regardons ce que nous n'avons pas su faire. On a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. Donc il faut qu'on soit capable de regarder ce bilan en face. Et j'invite mes collègues de gauche à regarder aussi. C'est pas possible de prétendre que tout va bien. Vous parliez de caricature, mais quand j'entendais tout à l'heure Manuel Valls aux questions au gouvernement, je me dis, mais il est sur une autre planète, cet homme-là. Et ensuite, la sortie des questions, il annonce une autre mesure démagogique qui est, je recule d'un an, la réforme de la DGF, c'est-à-dire l'argent qu'on donne aux collectivités.
Je pense à l'an prochain, cette difficulté-là.
Voilà, parce qu'il sait qu'elle est très impopulaire, y compris dans son camp, donc on va gagner encore un an. On invite les gens à ne pas payer l'impôt. Vous rendez compte où on en est arrivé.
Dans le déminage,
c'est la panique générale. On sent que ce gouvernement se délite. Et ça, c'est pas très bon pour la démocratie, honnêtement. Je préfère un gouvernement avec un cap. Et quand j'entends Macron, j'entends un cap. Mais malheureusement, le cap, il n'est pas traduit dans les faits. Et c'est toujours le problème de François Hollande, cette espèce de jeu, fraise des bois, comment il l'appelait, flambie, entre son pôle gauche, son pôle droit. Quand j'entends Macron, je me dis bravo, allons-y, faisons-le, mais il ne le fait pas, malheureusement.
Alain Frey.
Je reviens sur le Front National. On ne peut pas exclure que, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, on en connaît, il y a certains de vos collègues de gauche qui, si jamais la perspective d'une victoire de Marine Le Pen, qu'elle devienne présidente de cette grande région, devient vraiment toute proche, il n'est pas exclu qu'ils décident de se retirer. Il y en a qui plaident pour ça, vous le savez sûrement, hein, à gauche, qui disent ben voilà, c'est pas possible, c'est tellement pas possible que ben retirons-nous pour 5 ans de l'Assemblée régionale. Est-ce que vous leur donnez tort? Est-ce que vous leur dites non, faites surtout pas ça, parce que je veux pas que donner l'impression de faire alliance avec vous? Est-ce que vous comprenez?
Moi, je peux pas dire à mes collègues ils feront ce qu'ils ont envie de faire. On est dans un pays libre. Mais je redis que leur argument n'est pas le bon. Si on veut renforcer encore plus le Front National, il faut juste faire ça. Il faut juste donner l'impression qu'on va faire gagner le camp d'en face pour les empêcher de gagner. Parce que c'est ça le message qu'ils vont envoyer à l'opinion. Ils essayent de sauver leur peau en sauvant leur ennemi, tout ça pour empêcher le Front National. Si c'est ça l'argument, vous ne ferez qu'augmenter le nombre de gens qui en ont marre. Alors, si vous voulez les convaincre de ne pas voter Front National, convainquez-les sur la base de votre projet pour la région, en démontrant en quoi le Front National serait incapable de la gouverner, cette région. C'est ça le sujet. En quoi Mme Le Pen ou sa nièce serait incapable de diriger des régions.
Sauf que les régionales se font jamais sur les programmes, comme vous savez. C'est un peu une élection des fouloirs. Vous l'avez vécu vous-même en 2004, où vous avez perdu tout. Et ce sont des inconnus qui ont gagné les régions à gauche. Et c'est en général pas sur leur programme, si je me souviens bien.
C'est vrai, parce que c'est toujours aussi... là, à l'époque, c'était la sanction du gouvernement en place. Aujourd'hui, ça va être la sanction du gouvernement en place. Et peut-être en plus, un effet Front National, beaucoup d'ailleurs basé sur... Voilà, cette crainte que je sens monter dans le pays à cause de la situation internationale, à cause du phénomène migratoire, on sent que le pays ne contrôle plus son destin, qu'il y a des dangers sur le pays, et il y a une quête d'autorité.
Alors justement,
et comme le gouvernement actuel, franchement, n'en fait pas beaucoup preuve, voilà, ça risque de les aider.
Les menaces terroristes sur la France, la montée du Front National, est-ce que ce sont les deux ressorts qui ont inspiré Nicolas Sarkozy dans la présentation aujourd'hui de ces mesures, de ces réformes sécuritaires dans une France où, dit-il, tout va à volo?
Je crois que, franchement, la politique sécuritaire du gouvernement, elle est critiquable, parce qu'on a quand même vraiment l'impression qu'ils ne tiennent pas les choses. Et moi, j'ai été très très choqué cet été, quand plusieurs centaines de milliers de personnes ont été bloquées sur une autoroute, parce que 50 personnes ont décidé de bloquer l'autoroute et que le préfet a dit « Oh non, non, mais je me souviens exactement de ce qu'a dit la préfète. » Face à des gens aussi déterminés, il faut attendre. Et attendre la décision en appel du juge. Donc on disait au juge « S'il vous plaît, changez d'avis pour qu'on puisse lever le blocus dans la paix. » Et ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recommencé quelques mois plus tard.
Vous vouliez l'épisode de Moirans plusieurs semaines après avec ce premier blocage sur l'autoroute du Nord?
Mais complètement. Complètement. Et les violences, quand vous cédez, quand il n'y a pas de ligne jaune, pardonnez-moi, par définition, il n'y a plus de ligne jaune. Et je crois que la perte d'autorité, sentiment que le pays n'est pas vraiment tenu, ça c'est quelque chose qui est un vrai problème. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy a voulu répondre à ça par ses propositions? En partie, mais je crois aussi que comme beaucoup de gens, il se pose la question de savoir comment améliorer le mode de fonctionnement de notre système de sécurité dans les temps de risques terroristes que nous allons connaître. Parce qu'il faut quand même appeler les chiens un chat. Aujourd'hui, vous avez des Français qui combattent d'autres Français. C'est pas arrivé depuis la guerre d'Algérie, quand même. Vous avez des soldats français qui combattent des gens qui sont dans l'uniforme de Daesh. Et on a des morts en France, et on a des morts là-bas, et on a des morts en Afrique, de part et d'autre. Donc c'est une situation, en fait, de guerre. Donc, et nous sommes dans le temps de paix. Et Bernard Cazeneuve et tout le droit que nous votons à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, il continue à être dans le temps de paix. Mais tout en gardant les règles démocratiques du temps de paix et donc tous les droits auxquels nous sommes tous attachés, il faut quand même que le dispositif sécuritaire...
Justement, dans les propositions qu'a fait Sarkozy aujourd'hui, est-ce que ça va dans le sens que vous appelez de vos voeux? Par exemple, bon, voilà, super ministère De la sécurité intérieure, plus de place dans les prisons, la prison pour tous les Français qui rentrent du djihad. Vous l'avez sans doute écouté aujourd'hui, l'ex-président. Est-ce que ça va dans le bon sens par rapport à la menace terrible que vous venez de nous décrire?
Une partie de ces idées, nous les avions déjà défendues dans l'hémicycle. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des gens qui reviennent de Syrie? Aujourd'hui, on est toujours dans la législation. C'est très ambigu, la position de la France, si vous observez bien les choses. Parce qu'en Syrie, on fait la guerre. Donc on bombarde, y compris des Français. Mais le même Français qui survivra à un bombardement, qui reprend l'avion d'Istanbul vers Paris, quand il arrive à Paris, qui revient du djihad, il faudra que le juge français démontre qu'il a été dans une opération terroriste avant de pouvoir l'incarcérer. Sinon, il n'y a pas de case rétention. C'est ce qui est dit là dans les propositions de Sarkozy et que nous avions nous proposé avec les collègues à l'Assemblée. C'est qu'est-ce que vous en faites quand ils reviennent? Aujourd'hui, on n'en fait rien, sauf si le juge arrive à prouver qu'il a participé à des opérations de guerre. C'est difficile à faire, parce que s'il n'a pas posté de vidéo avec une Kalachnikov ou une tête coupée, le djihadiste qui revient de Syrie, il va se noyer dans la masse, et là, il peut être extrêmement dangereux, d'où l'idée d'avoir une case rétention, déradicalisation, pour tous ceux qui reviennent.
François Fillon pourrait reprendre à son compte les mesures annoncées aujourd'hui?
Ce que je viens de dire, sûrement. Après, il y a un volet qui n'est pas dans l'interview de ce matin, dans les propositions de ce matin, et qui est un vrai sujet, avec lequel, dont je parle d'ailleurs avec les militaires, et avec le ministre, Monsieur Le Drian. Qu'est-ce qu'on fait de sentinelles? Est-ce qu'on laisse des soldats, qui sont ensuite appelés à aller en opération, garder des lieux de culte ou des gares en France? Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre qui doit le faire, une garde nationale? C'est un vrai sujet, parce que c'est le dimensionnement de notre armée, c'est la formation des hommes. Vous voyez, on entre dans une situation qui malheureusement va durer. Parce que personne n'a de solution à court terme sur l'Irak, la Syrie, le djihadisme. C'est une situation qui va durer. Et donc, on est installé dans cette espèce de guerre qui ne dit pas son nom, et pour lesquels il faut ajuster notre système de sécurité. C'est pas absurde de dire, par exemple, qu'il faut libérer des forces de gendarmerie des autoroutes pour les mettre sur des tâches de sécurité.
Qui a privatisé ce genre d'opération?
Bon, après, il faut regarder, est-ce que c'est la bonne méthode ou pas, ça se discute, mais on est clairement à la recherche de solutions pour booster la sécurité publique dans le pays.
Roselyne Febvre.
Donc, dans le fond, Nicolas Sarkozy reprend le thème de 2007 qui lui a permis de gagner, c'est-à-dire la sécurité. C'est une vieille recette.
Bon, oui. Je pense que vous faites un jour tout le travail qui est mené chez les Républicains depuis des semaines, qui consiste à fabriquer un projet dans beaucoup de domaines.
Moi-même, j'organiserai une convention sur l'immigration, une convention sur la sécurité.
Oui, mais l'immigration, c'est un problème massif. La sécurité aussi. Nous ferons une convention sur la politique étrangère au mois de janvier. On décline. On a fait une convention sur le code du travail.
J'entends bien, mais...
C'est vrai que ce jour-là, on n'a pas parlé, parce qu'on parlait de Mme Morano.
C'est le programme de Nicolas Sarkozy, alors, c'est un programme des Républicains? Parce que dans le fond, le jour où on va désigner quelqu'un à la primaire, est-ce que ce sera son programme qu'il avait déroulé avant qui sera choisi, ou ce sera un autre programme qui sera refait par le parti, Républicains?
Vous mettez le doigt sur une ambiguïté qui fait l'objet de beaucoup de discussions à l'intérieur du parti, et beaucoup de discussions entre ceux qui sont candidats aux primaires et qui, quand ils ne s'appellent pas Nicolas Sarkozy, se sentent pas liés par les propositions qui sont faites par Nicolas Sarkozy. En même temps, ces ateliers, il y a beaucoup d'idées qui sont brassées. C'est bien qu'il y ait une discussion.
Il y a un vrai socle commun.
Il y aura un socle, évidemment, sur lequel on va se retrouver.
Sur l'économie, il y a un socle commun.
Sur la politique étrangère, je ne vois pas très bien. Sauf Monsieur Le Maire qui veut aller faire la guerre au sol en Syrie. Je crois qu'il est à peu près seul dans ce cas. Tout le monde est à peu près sur le genre de ligne que j'ai défini tout à l'heure. Sur les questions de défense, je pense qu'on va se retrouver. Sur les questions de code du travail aussi, avec des nuances. Chacun apportera sa propre pierre dans son propre programme. Mais c'est pas mal qu'il y ait un socle commun. Moi, pour l'instant, je suis dans la phase où on joue collectif. Donc, on joue collectif. Le jour où il faudra choisir le candidat, faire campagne, on verra comment ça se passera.
Il faut choisir le bon cheval.
Vous avez vous-même pointé le fait qu'il y avait une sorte d'ambiguïté, avec un chef de parti qui est aussi candidat à la primaire et qui, du coup, développant son parti, développant un programme du parti, se positionne aussi pour la primaire. Je veux dire que le fait que tous les candidats potentiels et leurs entourages ne participent pas À ces conventions, ça montre bien que eux ont bien vu le problème. Et vous aussi, d'ailleurs, j'imagine, parce que vous êtes
voilà, tout le monde a vu le problème.
Vous n'êtes pas un sarkozyste du premier.
Non, mais j'ai été son ministre. J'étais voilà. fier de travailler pour mon pays sous sa présidence.
Mais vous vous définissez comme filloniste aujourd'hui.
Moi, je suis toujours l'ami de François Fillon. Mais d'ailleurs, Nicolas le sait très bien. Mais bon, il n'y a pas de guerre civile dans cette histoire, que je sache.
Il
y a
une reconversion
qui n'a même pas commencé encore, puisque Nicolas Sarkozy n'a pas annoncé qu'il était candidat, je vous signale.
Oui, quel suspense, comme dirait Alain Juppé.
Oui, bon, écoutez, on se parle quand même. Et je vous dis, on est dans une phase aujourd'hui qui est une phase de collectif. On va attendre le résultat des régionales et en tirer les conséquences. Après, il y a les élections internes au mois de janvier. Il sera bien temps de commencer la campagne des primaires après.
Et nous, on ouvre la dernière séquence de Mardi Politique. Question courte, réponse tout aussi courte. Si c'est pas Fillon qui remporte la primaire, justement, Pierre Lellouche, est-ce que vous soutiendrez Juppé ou Sarkozy ou Le Maire ou Mariton ou Poisson?
Je vais vous dire, je vais vous répondre exactement comme tous mes collègues. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le candidat qui va gagner. Parce que le pays a besoin d'alternance. Donc voilà, il faut que la primaire soit un exercice où le meilleur sorte. Et ensuite, tout le monde sera derrière, parce qu'il faut qu'on arrive à redresser ce pays. C'est quand même ça le but. Le but, c'est pas une histoire de personne. Il faut que ce soit le bon leader. Ben, il y aura un exercice pour ça.
C'est
mais franchement, derrière, tout le monde va être, je vois pas que la guerre civile va continuer. Notre job, c'est quand même de battre la gauche et d'essayer de redresser ce pays.
Une question pas politique. Vous avez vu que Mein Kampf de Hitler va être réédité puisqu'il tombe dans le domaine public. Il va être réédité par Fayard avec des annotations et des commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il le faut pour l'histoire? Est-ce que vous le relirez?
Non. Moi, je le relirai pas. Je pense pas que ce soit une bonne chose pour l'histoire. Je pense qu'il existe déjà sur Internet. Pour ceux qui sont absolument, qui ont un besoin urgent de lui relire Adolf Hitler aujourd'hui, ils peuvent le faire. En faire tout un battage médiatique, la noter et autres, ça me paraît un peu étrange. Mais enfin, encore une fois, nous sommes un pays libre. C'est certainement pas moi qui vais mériter un censeur des éditeurs. En droit d'éditer ce qu'on veut, mais il y avait quand même... Il y a quand même une législation en France, il me semble, sur l'apologie à la haine raciale. Mein Kampf, c'est plein de ça, quoi. J'ai même fait voter, moi, une loi à l'unanimité sur les violences à caractère raciste et antisémite. Dimanche, je débattais de ça avec mon collègue Malek Bouti. C'est assez curieux qu'on parle toute la journée de lutte antiraciste dans ce pays et de loi. Enfin voilà, vous avez sensible.
Moi j'ai une question assez politicienne, mais que je crois assez prometteuse.
Attention,
moi, je me méfie,
on va tout donner, c'est la fin de l'émission.
Il y a deux écoles. Nicolas Sarkozy prétend que c'est lui en tant que chef de parti qui doit donner les investitures pour les élections municipales de 2017. Et la plupart de ses concurrents prétendent que la logique veut que ce soit le vainqueur de la primaire.
Très courte la réponse.
Je pense que les seconds ont raison quand même.
D'accord.
C'est quand même le gars qui est désigné candidat, qui va aller à la bataille et qui fabrique sa majorité. Bon. Sinon, les dés risquent d'être un tout petit peu pipés quand même pour l'élection interne.
Bon, on dit qu'on terminera donc avec du bon sens. C'est
je
la fin de Mardi Politique, réalisé par Mathias Golshani. Merci Pierre Lellouche d'être passé par RFI. Merci à nos partenaires France 24 et Libération, Rosine Fèvre et Alain Onfray. Rendez-vous à tous la semaine prochaine.
Africfoot.rfi.fr, le site de référence du foot africain.
Suivez toute l'actualité des compétitions africaines et des joueurs africains en Europe. Retrouvez aussi des portraits, des entretiens et réécoutez les journaux et émissions de RFI sur le foot africain.
Africfoot.rfi.fr, le site du ballon rond africain en version web et mobile.
RFI. Vivez en direct.